Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Donc, je vous propose de démarrer avec Rouen. Rouen qui est une ville musée, en témoignent ses monuments. On pourrait citer, donc on va la découvrir, l'abbatiale Saint-Ouen, l'église et l'être de Saint-Maclou, des rues et des quartiers de facture médiévale, la rue du Gros Horloge ou la place du Vieux Marché qui est rénovée là maintenant. Bon. Et cependant, si l'on découvre une ville-musée aujourd'hui, plusieurs drames ont marqué la longue histoire de Rouen. Parmi ces drames, on peut citer les raids et pillages scandinaves du Xe siècle, ou encore la guerre de Cent Ans, et plus précisément le siège de la ville et son occupation par les Anglais. On pense notamment au procès et à l'exécution de Jeanne d'Arc. Nous sommes en 1431. Bon. Et à ces quelques événements se rajoutent aussi et peut-être même surtout les destructions à l'issue de la bataille de Normandie en 1944. Alors soit on visite une ville qui est maintenant, oui, rénovée, hein, qui est très très belle à découvrir, mais il ne faut pas mettre de côté ce passé qui est un passé dramatique, qui est un passé difficile. Alors, parlons effectivement de la ville dans l'histoire, une ville dont la prospérité a été vraiment exceptionnelle. Hein. Donc la prospérité de la ville s'affirme en fait depuis le Ratumacos gaulois qui a été romanisé en Rotumagus, comme c'est indiqué sur la projection logiquement. Donc de quoi s'agit-il? D'une ville gallo-romaine importante et d'un archevêché. Donc dès l'Antiquité, et plus précisément la fin de l'Antiquité, c'est déjà effectivement un archevêché. L'ancienne capitale des ducs de Normandie doit sa richesse et sa prospérité à sa position. Là, on le voit sur ce document. Donc, elle est positionnée sur la rive droite de la Seine, plus précisément à son embouchure. Dès lors, il y a là un port à la fois maritime et fluvial. Or, ce port a été l'un des relais les plus importants pour le commerce entre la France et l'Angleterre. Les Normands ont en fait leur capitale. Il y a eu un événement qui, dans l'histoire de France, est le traité de Saint-Clair sur Epte. Ça s'affiche là sur la projection, le traité de Saint-Clair sur Epte, qui date de 911. Et effectivement, lors de cet événement, Charles le Simple, roi de la Francia occidentalis, donc Charles le Simple cède à Roland la région qui prend le nom de ces Normands, c'est-à-dire la Normandie. Donc 911, elle est la capitale de la Normandie, et cependant, alors que le traité signé avait pour but de simplifier et d'harmoniser les rapports entre ce royaume de France représenté par Charles le Simple et ces Normands qui donc avaient mené des raids, des pillages, enfin on connaît cette histoire. Bon, en fait, les rapports du duché de Normandie avec le roi de France ne sont pas simples et resteront toujours finalement difficiles. Pourquoi? Pour une raison qui paraît évidente. Si la ville est un port, si la ville connaît une prospérité économique qui est tout à fait exceptionnelle, c'est que la ville est attirée pour ces raisons-là, justement, ces raisons commerciales, vers l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui va justement faire profiter donc l'économie de Rouen et plus peut-être de la Normandie. Bon, alors, pendant tout le Moyen-Âge, la ville est sous l'autorité des ducs de Normandie, puis du roi de France. Hein, je vais revenir sur les événements tout à l'heure en vous montrant quelques édifices à ce propos. Mais effectivement, pendant tout le Moyen-Âge, la ville est sous l'autorité des ducs de Normandie. Donc, je parlais de sa prospérité. Elle est la deuxième cité du royaume après Paris. Et cela, on l'aura compris grâce à son port. Elle est une grande ville administrative et marchande. À l'époque médiévale, c'est plutôt une ville bourgeoise. Il y a aussi des juristes. Les juristes sont installés autour du Parlement, que l'on va évoquer dans un instant. C'est une ville de marchands, c'est une ville de négociants, enfin une grande ville, hein, une ville qui s'est imposée comme un grand pôle commercial. Et alors on pourrait dire, c'est pas notre époque, c'est pas l'époque qu'on va traiter, l'époque contemporaine, non, enfin on pourrait dire quand même, parce que ça me paraît tout à fait frappant, que la ville s'est imposée plus tard comme un grand pôle de développement industriel, exactement pour les mêmes raisons, ou plutôt grâce aux avantages qu'elle avait, cette cité. Elle sera au 19e siècle, c'est pas notre époque, c'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui, mais enfin je tiens à le dire quand même, elle sera au 19e siècle un très grand pôle de développement industriel. Et je pense que vous connaissez tous Braudel, l'historien Fernand Braudel, qui a donc révolutionné quand même en profondeur l'histoire en France, et surtout son enseignement, ou l'approche de l'histoire donc en France. Bon, l'historien académicien Fernand Braudel a pu écrire ceci, que la ville de Rouen aurait pu devenir la capitale de la France si le territoire de l'Hexagone avait développé une vocation plus maritime. Voilà, ce que l'Hexagone n'a pas fait, ou pas vraiment fait, à la différence de Rouen. Rouen l'avait fait, ça depuis l'époque de Roland, finalement, depuis l'époque de l'installation des Normands dans cette région. Donc oui, elle a la stature, Rouen, d'une capitale. Elle a la stature d'une capitale. Elle aurait pu être la capitale de la France, nous dit Fernand Braudel. Voilà, alors bon, donc allons un peu plus loin. Vous avez ce document, je crois, hein, bon, qui est maladroit, c'est que j'ai pas trouvé mieux, ou je me suis pas embêté, donc je suis tombé sur ce document, et je l'ai photocopié, vous l'avez. Donc ça nous suffira très largement pour nous orienter dans ce cours, qui, bien sûr, est obligé de faire une sélection de quelques-uns des sites les plus importants de Rouen, qui se rapportent pour la plupart au Moyen-Âge, donc des sites du temps des ducs de Normandie, ou juste au moment où le roi de France s'empare de la ville. Ça restera quand même pour l'essentiel des sites médiévaux. Alors attention à cette présentation que je vous propose aujourd'hui, qui n'est pas chronologique. Je ne vais pas partir du plus vieil édifice médiéval de Rouen pour arriver au plus récent. Non. On va commencer par ce qui est entouré ici, que vous retrouverez donc sur votre plan, peut-être pas, qui est le palais de justice. Un palais de justice. Alors pourquoi commencer par le palais de justice? Pour ceux qui connaissent Rouen, vous savez que l'édifice est plutôt correspond davantage à la Renaissance finalement, hein, donc nous sommes autour de 1500 quand on construit le palais de justice, donc c'est déjà tardif pour la période considérée par nous aujourd'hui, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Bon, mais pourquoi commencer par le palais de justice? Parce qu'il porte encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale, et ça me paraît important de dire justement que la ville a beaucoup beaucoup souffert lors du bombardement de 1944, en porte témoignage ce palais de justice. Donc ça sera le premier édifice qu'on va considérer. Le deuxième, c'est bien sûr celui que j'entoure ici, c'est-à-dire la cathédrale elle-même, la cathédrale Notre-Dame. La troisième église, ça sera très succinct d'ailleurs, c'est l'église Saint-Ouen que je viens d'entourer là à l'instant sur la projection. Le quatrième édifice sera l'église Sainte-Jeanne d'Arc, qui est un petit peu plus à l'ouest de la ville, je l'ai entouré sur le document. L'église Sainte-Jeanne d'Arc, c'est donc une place, ou elle correspond à une place, c'est la place du Vieux Marché, où s'élève cette église, qui est contemporaine à ce propos. Hein. Pour ceux qui connaissent Rouen, vous savez qu'elle est récente, cette église, mais elle contient des vitraux qui sont absolument exceptionnels, que je souhaitais quand même présenter, donc plutôt à l'ouest. Le cinquième édifice, ou le cinquième ensemble, on pourrait presque évoquer finalement un complexe architectural. C'est l'église et l'être Saint-Maclou qui se trouve ici, précisément, je l'ai entouré sur le document, c'est donc juste à côté de la cathédrale, de l'ensemble cathédrale, un petit peu à l'est. Donc l'être Saint-Maclou et l'église Saint-Maclou, et si on a le temps, si je me suis bien débrouillé, on devrait terminer par un hôtel, qui est un hôtel de la Renaissance justement, puis ça permet de visualiser quelque chose qui correspond à ce que je viens de dire à l'instant. Je prétends que la ville était au Moyen-Âge et encore à la Renaissance, à l'époque moderne, une ville de bourgeois, donc c'est important de présenter un hôtel privé si vous voulez, hein. Ça sera l'hôtel de Bourtroude, Et l'hôtel de Bourtroude se trouve juste à côté de la place du Vieux Marché. Donc voilà les 6 sites que je vous propose de considérer. Il y en a beaucoup d'autres à découvrir, beaucoup d'autres qui seraient très très intéressants à voir, mais c'est dense, Rouen c'est vraiment très dense, encore une fois, comme le disait Brodel, la ville a la stature d'une capitale, donc forcément la ville est riche du point de vue de son patrimoine. Et si vous vous posez la question, mais quelle est l'église qui avait brûlé là ce lundi 15 juin 2015, on a encore donc ces images en tête puisqu'elles étaient passées en boucle à la télé, c'était très très impressionnant, c'était la toiture d'une église de Rouen qui avait pris feu, mais c'était vraiment impressionnant, c'est la basilique Saint-Donatien. Qui a pris feu, et là donc effectivement je n'en parlerai pas, je ne vais pas l'évoquer du tout, parce qu'elle est une église beaucoup plus récente. Alors suivant ce plan que je vous propose de considérer, donc les 6 sites, si j'arrive donc jusqu'au bout. Alors démarrons par ce palais de justice de Rouen. Entre parenthèses, j'ai rappelé qu'il s'agit de l'ancien échiquier de Normandie. Vous avez une petite idée de la datation, fin du XVe siècle. On va être plus précis dans un instant et nous sommes sur la place du marché neuf et non pas du vieux marché, actuelle place Foch. Alors, on peut dire finalement que c'est un palais qui a été construit entre la fin du XVe et le XXe siècle. Entre la fin du XVe siècle et le XXe siècle. Parce que, entre-temps, il y a eu des événements, et notamment le bombardement de 1944. Alors d'abord, donc on va préciser que c'est Louis d'Orléans, gouverneur de Normandie. Il est gouverneur de Normandie depuis 1492. Louis d'Orléans, qui devient roi de France en 1498 sous le nom de Louis XII, qui assistait de l'archevêque de Rouen, qui était son conseiller, il s'appelait Georges d'Amboise, qui décide donc en avril 1499 de créer à Rouen une assemblée. Donc il est roi depuis quelques mois, il connaît bien effectivement cette ville puisqu'il a été gouverneur de la Normandie avant d'être roi, et il décide de créer là une assemblée qui est appelée, qui prend comme nom échiquier permanent, c'est l'échiquier permanent, dont la fonction principale, on s'en doute, est de rendre la justice. Les échevins de la ville en décident la construction le 25 avril 1499. Donc ils suivent la vie du roi. Il faut toujours le signaler parce que il y a toujours dans les villes en France, et on pense surtout à Bordeaux, des conflits entre les échevins, les consuls, si vous voulez, pour Bordeaux, les échevins pour Rouen, et le pouvoir royal. Et quand le pouvoir royal, par le biais de son gouverneur, prend une décision, généralement les échevins ne sont pas d'accord. À Bordeaux, ça a été ça, les consuls. À Bordeaux, ils n'étaient jamais d'accord. Bon. Mais là, si, c'est dès le 25 avril 1499 que les échevins de la ville en décident la construction. Et je précise, parce que ça, je pense, son importance, où ça aura son importance, que le Parlement sera construit en pierre de Caumont ou Vernon. C'est une pierre qui vient de l'Eure, du département de l'Eure. Ça, c'est pour les parties dures de ce bâtiment. Et en pierre de Saint-Maximin, la pierre de Saint-Maximin vient de l'Oise, pour les autres parties qui étaient plus fragiles, qui étaient peut-être qui n'avaient pas besoin d'être des parties porteuses, si vous voulez. Donc, deux pierres, pierre de Caumont ou de Vernon de l'Eure et la pierre de Saint-Maximin qui vient de l'Oise. Bon, la construction va relativement vite, et en 1507, les membres de l'échiquier emménagent dans ce palais neuf, qui est vaste, donc quelques années seulement, pour le construire, et à ce moment, le président de l'échiquier entreprend, pour le compte du roi, la construction du palais royal. Donc il y aura un palais royal contigu donc à ce parlement, à cet échiquier, et ce palais royal est achevé en 1509. Donc entre 1499, en l'espace de 10 ans, et 1509, tout ce complexe du parlement, de l'échiquier et donc du palais royal est bâti. En 1515, François Ier transforme l'échiquier permanent en Parlement de Normandie. Que sera ce Parlement de Normandie? Ça sera la Cour souveraine, dont la principale fonction est de rendre la justice, on s'en doute. Et depuis cette époque, ce bâtiment abrite le palais de justice. Le palais de justice, ça a été validé ou ratifié encore après la Révolution française, ou malgré la Révolution française, ça continue effectivement d'être un palais de justice. Alors je vous parle de ce bâtiment d'abord en raison de ça, de cette image que vous avez sous les yeux, qui bien sûr est le souvenir des bombardements par les Alliés dans la nuit du 18 au 19 avril, puis pendant toute la journée du 26 août 1944, donc deux phases de bombardement, d'abord la nuit du 18 au 19 avril, puis la journée du 26 août 1944, bombardements qui ont été particulièrement dévastateurs pour ce palais de justice. C'est le palais de justice que l'on voyait à l'instant, donc là vous en avez la photo d'archives, qui bien sûr montre dans quel état il se trouvait après ces bombardements. Les incendies en résultant anéantissent le décor de la salle des assises, qui on se doute remontait à l'époque de la Renaissance, de l'époque moderne. Ces incendies détruisent la charpente, comme le montre très bien la photo. La voûte lambrissée de la salle des procureurs disparaît également. Seule la partie datant du 19e siècle, parce qu'il y avait eu effectivement un aménagement au 19e siècle, c'est-à-dire la cour d'appel est partiellement épargnée. Bon, donc c'est catastrophique, c'est même désastreux, mais l'on entreprend, après la victoire des Alliés, après la libération, on entreprend aussitôt une campagne de restauration, et cette campagne a duré 50 ans. 50 ans pour restaurer ce Parlement. Alors pourquoi 50 ans? Parce que justement, on a été soucieux de certaines choses. Par exemple, on a été soucieux de récupérer ce que l'on pouvait récupérer, les matériaux réutilisables, à commencer par des éléments moulurés qui avaient été épargnés par les incendies, ont été réutilisés. Donc c'est une restauration qui est vraiment scrupuleuse, soucieuse. Est-ce que l'on peut dire à ce propos que c'est une reconstruction à l'identique? Pas tout à fait. Pour certaines parties, oui, ce sont des reconstructions à l'identique. Par exemple, la façade de la cour d'honneur, c'est-à-dire c'est celle que vous avez ici sous les yeux, est une reconstruction à l'identique. Et là, on a soin de récupérer dans les carrières de Saint-Maximin, la pierre que j'évoquais tout à l'heure, Saint-Maximin, c'est dans l'Oise, et les pierres de Vernon dans l'Eure. C'est pour ça que cette question de l'appareil, donc de la pierre de la maçonnerie, m'importait. Car on a le souci de reprendre exactement les mêmes pierres qu'on avait utilisées à l'origine. Pierre de Saint-Maximin dans l'Oise et pierre de Vernon dans l'Eure. Alors voici la restauration, donc à l'identique. Vous avez un repère, c'est l'avant-corps qui est ici, là, donc en hémicycle à peu près. Et voici donc la façade telle qu'on la voit aujourd'hui, avec bien sûr l'avant-corps que l'on montrait à l'instant. Alors remarquez d'ailleurs à ce propos, entre parenthèses, le style, bien que nous ayons parlé de rois de France qui ont fait des campagnes en Italie et sont censés rapporter d'Italie un style qui est celui de la Renaissance, le style que l'on découvre ici est plutôt un style gothique tardif. C'est un style gothique tardif. Rapprochons-nous à ce propos pour bien voir le style de ce Parlement, donc de la façade qui a été restaurée à l'identique. C'est un style gothique tardif avec des arcs en accolade qui sont agrémentés de petits fleurons parfois, encore un jeu de pinacles de dés qui devaient abriter des statues, tout un jeu effectivement qui correspond assez bien au vocabulaire de l'architecture gothique tardive, excepté peut-être des fenêtres qui sont en anse de panier. Ces ouvertures en anse de panier sont plutôt données au vocabulaire de la Renaissance italienne et de la haute Renaissance, c'est-à-dire déjà la Renaissance du XVIe siècle. Par contre, ce jeu de mouluration qui se croise et s'entrecroise, que l'on peut trouver ici, par exemple, à la base de l'édifice, appartient encore au gothique tardif, au gothique qu'on appelle parfois flamboyant. Ici, vous avez presque un jeu de remplage qui finit de nous convaincre que c'est un style gothique tardif. Donc voilà pour ce bâtiment restauré. Mais je vous disais à l'instant, a-t-on affaire à une réfection, une restauration à l'identique? Pas partout, hein, pas partout. Donc le parti retenu est une réfection et non une restitution à l'identique du bâtiment. C'est une réfection, c'est-à-dire qu'il y a eu l'utilisation de techniques modernes pour notamment les planchers, la voûte et la charpente entourant la salle des procureurs à l'intérieur du bâtiment. Tout cela a été construit en béton armé. Je vous parle donc des planchers, de la voûte, de la charpente qui entourent à l'intérieur la salle des procureurs. Ça, c'est en béton armé. Donc là, bien sûr, on a une réfection et non pas une restitution à l'identique. Et le maître d'ouvrage, entendons-nous bien, celui qui coordonne la restauration ou la réfection de ce bâtiment, a tenu à conserver sur les façades ce que vous apercevez là sur la photo, les traces des fusillades datant de la Seconde Guerre mondiale. On peut se rapprocher, voici un tout petit extrait là, à droite. Ça c'est aussi un autre aspect, si vous voulez, du bâtiment. Donc ainsi, pour faire un peu la synthèse de ce qu'on a dit, des parties qui sont restaurées à l'identique, d'autres qui relèvent d'une réfection à partir de techniques modernes, le béton armé, et un souci de témoigner des drames vécus par ce bâtiment, et donc du même coup par la ville et les habitants, et notamment le bombardement de 44, ou les bombardements de 44. Voilà un petit peu, donc ça vous donne une petite idée, et puis ça, moi je pense que ça, ça permet d'emblée de ne pas oublier que cette ville quand même a été très très marquée dans son histoire. Alors on va s'orienter, on va laisser le Parlement de côté, ou l'échiquier de côté, et on va s'orienter vers la cathédrale. Chemin faisant, on découvre de superbes maisons, qui sont des maisons à pans de bois, où elles ne sont pas très très anciennes. Elles datent des 16e, pour les plus anciennes, 17e siècle. 16e, 17e siècle. Mais ce sont de très très belles maisons, qui sont construites dans une tradition médiévale, encore médiévale, et donc traditionnelle, on pourrait dire, bon, maison à pans de bois, maison à colombage, parfois même avec un jeu de porte-à-faux qui est assez sensible, et puis parfois on tombe sur des maisons qui sont plus originales, comme celle-ci, là, au milieu, qui est flanquée de deux maisons à pans de bois plus traditionnelles. Celle du milieu relève davantage d'un style de la Renaissance, ce que dit, par exemple, ce que disent les pilastres. On a effectivement des jeux de pilastres, là en bois, tout est en bois ici, des jeux de pilastres qui se terminent par des chapiteaux qui portent des corniches ou des frises, si vous voulez, qui sont sculptées dans le bois. Donc là, ça montre bien effectivement une adaptation à un goût qui est celui de la Renaissance. Bon, alors là, oui, on chemine en direction de la cathédrale, et voici cette cathédrale. Vous avez, je crois, un plan, donc le plan va nous servir de cette cathédrale pour nous orienter, la cathédrale Notre-Dame. La cathédrale que l'on découvre est celle qui est reconstruite au lendemain de l'incendie de 1200. Le 8 avril 1200, il y a un incendie dévastateur dans la ville et surtout le quartier de la cathédrale. Et cet incendie détruit presque entièrement l'édifice roman, donc 8 avril 1200. Presque entièrement parce que tout ne disparaît pas. Et il y a notamment la tour nord de la façade, qui est appelée la tour Saint-Romain, donc c'est celle qui est à gauche sur la photo, la tour Saint-Romain qui va résister à l'incendie, et qui avait été construite en 1145, donc une tour romane de toute première importance, pour visualiser tout simplement ce qu'était l'architecture romane de cette cathédrale, donc l'architecture au XIIe siècle, avant l'incendie de 1200. Mais il faut quand même reconnaître que pour l'essentiel, il s'agit bien d'une cathédrale du XIIIe siècle. pour l'essentiel, hein, parce qu'à partir de là, il y a eu des aménagements et des reconstructions dans le courant du 15e siècle et encore au début du 16e siècle. On va essayer de voir tout ça, hein, donc toutes ces campagnes d'une façon, disons, simple et agréable, par le jeu finalement de la statuaire, on va se rendre compte qu'il y a à peu près toutes les époques, mais que l'église, la cathédrale est essentiellement du XIIIe siècle. Et justement, ce qui va frapper, et ce qui frappe vraiment, hein, quand on visite cette cathédrale de Rouen, c'est pas tant son architecture, son style est gothique. Donc c'est le style gothique que vous allez retrouver dans les autres cathédrales de la même époque en France et notamment en Île-de-France. Bon, mais ce qui va frapper, c'est une très riche sculpture. La sculpture de la cathédrale de Rouen est incroyable, qui date pour l'essentiel du dernier tiers du XIIIe siècle, pour l'essentiel, parce que là aussi, on va découvrir des tympans qui sont plus tardifs. Bon. Et cette statuaire reflète l'art élaboré à Paris, qu'il n'y ait pas effectivement de mystère, ce gothique et le gothique, alors quand on dit parisien, c'est en fait l'Île-de-France, c'est le gothique de Saint-Denis, le gothique qui avait été élaboré à l'abbaye de Saint-Denis par l'abbé Sugère. Alors vous avez ce plan, et ce plan va nous guider. Voici la présentation que l'on va faire. On va la faire si possible chronologique, on va respecter une chronologie. On va commencer par l'intérieur. Ça sera la première approche. L'intérieur, c'est-à-dire la nef que l'on va considérer, et puis le chœur, ainsi que la chapelle cathicienne, un petit peu plus tardive, qui date du XIVe siècle, la chapelle de la Vierge. Donc l'intérieur sera considéré, puis nous passerons à l'extérieur, et successivement, on va découvrir la façade, que l'on vient de voir, mais que l'on va détailler, c'est-à-dire que l'on va découvrir plus précisément la tour Saint-Romain, qui est la tour nord, hein, celle du XIIe siècle, celle qui a échappé à l'incendie de 1200. Donc la tour nord, la tour Saint-Romain, la tour de Beurre, qui est plus tardive, qui est de l'autre tour, la tour sud si vous voulez. Puis on considérera la sculpture sur cette façade qui se découvre sur les trois portails de la façade occidentale. Le portail central, le portail Saint-Jean, qui est le portail à gauche, c'est-à-dire le portail nord, et le portail Saint-Étienne, qui est à droite, le portail sud de la façade occidentale. Puis nous passerons au portail de la Calande. Le portail de la Calande, c'est le portail sud, le grand portail sud de la cathédrale, qui correspond au croisillon sud du transept, car l'ambition ici, c'est comme à Chartres, c'est de créer finalement trois façades monumentales, hein, une façade à l'ouest, une façade au sud et une façade au nord. Et on a réussi finalement, on a fait quelque chose qui est presque équivalent, peut-être pas quand même tout à fait, à Chartres. Donc ce sont les façades du transept. On commencera donc par la façade sud, portail de la Calande, et on continuera par le portail des libraires, celui qui est au nord. Alors bon, sans quoi, soyons maintenant plus précis pour la chronologie, hein. C'est un archevêque qui s'appelle Gauthier le Magnifique qui décide d'abattre la nef romane. Je vous ai parlé d'un incendie, soit il y a eu l'incendie de 1200, mais avant cet incendie, il y a eu cet archevêque Gauthier le Magnifique qui décidait de détruire la nef romane en 1185 parce qu'il était, cet archevêque, fasciné par le nouveau style, mais tout nouveau, qu'il avait eu l'occasion de voir à Saint-Denis, dans le cœur de l'église abbatiale de Saint-Denis, le cœur de l'abbé Sugère. Et donc ce qu'il veut, ce Gauthier le Magnifique, c'est une église comparable. Donc la nef romane en 1185 est reconstruite dans ce style d'Île-de-France, gothique si vous voulez, enfin gothique ça veut rien dire gothique, hein. Donc on va dire le style d'Île-de-France, le style de l'abbé Sugère, c'est la référence à Saint-Denis, et pour bien comprendre les choses, le gigantesque incendie de 1200 va accélérer la transformation de l'édifice. Mais en fait, la décision avait été prise avant, hein, c'est Gauthier le Magnifique qui, en 1185, faisait déjà disparaître la vieille église romane. Mais l'incendie accélère, bien sûr, la transformation de l'ensemble. Alors, quand Jean Santerre, le roi d'Angleterre, Bon. Quand Jean Santerre apprend l'incendie de 1200, il va offrir une très grosse somme d'argent pour la reconstruction de cette cathédrale de Rouen. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs à Chartres. À Chartres, c'est pareil. À Chartres, c'est Richard Cœur de Lion qui va donner de l'argent, entre autres rois, parce que les plus grands souverains donc d'Europe occidentale, les plus grands prélats, les plus grands princes, donnent de l'argent pour reconstruire la cathédrale de Chartres. Et là, donc, effectivement, c'est Jean Santerre qui va donner de l'argent, si bien que les travaux vont avancer assez vite à partir de 1200, ou plutôt après l'incendie de 1200. Voilà, en 1204, achevant la conquête de la Normandie, Philippe Auguste peut assister à un Te Deum dans la nef qui est quasiment achevée. 1204, alors que l'incendie, on l'a dit, donc que c'était déclenché en 1200. Donc ça veut dire qu'on a des moyens, hein, que les travaux avancent très très vite si Philippe Auguste peut assister à un Te Deum dans la nef. Bon, donc 1204, dans la décennie 1240, l'essentiel est construit. Ça veut dire la nef, on va le voir dans un instant, on a adopté une élévation à 4 niveaux, c'est un peu archaïque, on va y revenir, mais dès que l'on arrive au cœur, le cœur de la cathédrale, l'élévation est à 3 niveaux, ce qui est plus traditionnel pour le gothique. Hein. Alors on voit ça de suite par l'image. Hein. Alors voici la nef, voici donc l'intérieur. Hein. On avait dit qu'on commencerait par l'intérieur. L'intérieur offre une très grande homogénéité. Il relève du gothique normand. Le gothique normand se caractérise par des arcs très aigus. Ce sont des arcs d'ogive, soit, mais qui sont plus pointus, plus aigus que dans le reste du gothique. Bon, c'est une caractéristique, ça, du gothique normand. Et il y a une autre caractéristique, un goût particulier pour les colonnettes au niveau des piles, si bien qu'on peut dire que les colonnettes à foison finissent par masquer les piliers. Les piliers, on les voit bien là ici, hein, qui délimitent les travées de cette nef, mais les piliers sont noyés dans un jeu de colonnettes décoratifs hein, d'ailleurs. Hein. Alors bien sûr, les colonnettes correspondent aux nervures des arcs au-dessus, soit, mais enfin, ça n'est que décoratif et c'est une particularité, disons esthétique, du gothique normand. Et alors ce qui est particulier et même assez curieux, pour ne pas dire carrément archaïque, c'est que cette construction est caractéristique également du premier gothique. Le premier gothique, celui de la seconde moitié du XIIe siècle, hein, je vous rappelle que le gothique de Saint-Denis est achevé en 1144. Le cœur de l'église abbatiale de Saint-Denis a été construit entre 1140 et 1144. Donc c'est la naissance du gothique. Seconde moitié du XIIe siècle, ce gothique se diffuse partout, mais ce qui va le caractériser, ce premier gothique, c'est une élévation à 4 niveaux. C'est ce que vous retrouvez par exemple à la cathédrale Notre-Dame de Paris. À Notre-Dame de Paris, dans la nef, vous avez quelques travées qui témoignent encore d'une élévation à 4 niveaux. C'est ce que l'on voit là ici, on le voit très très bien. Hein, donc le niveau du rez-de-chaussée, le niveau ou l'étage de tribune qui aurait dû disparaître. C'est ça qui est archaïque. Hein. C'est ça qui caractérisait notamment les églises romanes, ces églises qu'on appelait, il y a encore de ça pas très longtemps, les églises de pèlerinage. Pensez par exemple à Saint-Cernin de Toulouse, que l'on verra très bientôt dans ce programme. Enfin, je l'espère, hein, parce que le calendrier n'est pas clair. Bon. Donc en tout cas, effectivement, ça caractérise plutôt les édifices romans. Ensuite, un étage ou un niveau qui correspond au triforium, une galerie hein, qui sera retenue dans le gothique postérieur, et enfin ici l'étage des fenêtres hautes. Quatre niveaux. Bon. Donc c'est archaïque parce que finalement les architectes gothiques vont privilégier l'élévation à 3 niveaux qui est beaucoup plus équilibrée, donc visuellement très esthétique, c'est-à-dire qu'ils feront disparaître l'étage de tribune au profit du triforium. Non pas que le triforium va prendre de l'importance, hein. C'est au profit du triforium, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire disparaître cette galerie du triforium au profit de la tribune, c'est le contraire qui s'est passé. Et là on a un équilibre visuel qui est absolument sensationnel. Enfin, je vais pas dire que c'est pas le cas ici, mais quatre niveaux, c'est plus lourd de suite, c'est plus lourd. Bon. Alors ce qui est frappant, c'est que, je le redis, nous sommes quand même sensiblement après l'incendie de 1200. Et là, on ne comprend pas pourquoi, après 1200, on n'a pas choisi une élévation à trois niveaux. Pourquoi on n'a pas remanié les choses de façon à donner à cette nef une élévation à trois niveaux. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre le terme d'archaïsant. C'est archaïsant comme élévation. Hein. À l'époque à laquelle nous sommes, c'est archaïsant. Voilà, alors bon, donc ça vous donne une petite idée quand même de l'intérieur de cette nef de la cathédrale de Rouen. Puis alors on arrive au cœur, ce qui permet de bien voir comment les travaux ont avancé finalement de l'ouest vers l'est, et arrivé au cœur, force est de constater que bien sûr on adopte une élévation à trois niveaux, avec toujours ces caractéristiques donc normandes. Remarquez plutôt les piliers de la croisée du transept, ce sont les deux piliers là qui sont devant, à gauche et à droite, et le jeu de colonnettes, ça c'est typique du gothique normand, et enfin les arcs brisés qui sont particulièrement aigus, particulièrement pointus, mais sinon élévation à trois niveaux. La curiosité, c'est que après ce cœur, qui est quand même a priori le sanctuaire, après ce cœur, vous pouvez encore vous projeter plus loin à l'est et pénétrer dans une chapelle qui est très bien rendue sur le plan, qui est appelée la chapelle de la Vierge, hein, qui est dans la progression vers l'est, si vous voulez, donc plus loin. Bon. Mais la chapelle de la Vierge, comme je l'ai indiqué, plus tardive, elle a été achevée au XIVe siècle. C'est la chapelle axiale de la cathédrale. C'est un vieil héritage, hein, ça, pour ceux d'entre vous qui connaissaient bien l'architecture carolingienne, en particulier carolingienne, l'architecture ottonienne, l'architecture du XIe siècle. Alors vous savez que souvent, après le cœur de l'église, plus loin encore, à l'est, hein, on construisait souvent d'ailleurs des rotondes. Hein, c'était des rotondes dédiées à Marie. Ou alors ça pouvait être une rotonde comme celle que nous avions vue, souvenez-vous, à Dijon, Saint-Bénigne de Dijon. Je crois qu'on avait traité ça l'an dernier. Hein. À l'est, après le cœur, vous avez une rotonde. Bon. Et un niveau de la rotonde dédié à Marie, justement. Donc c'est traditionnel ça, traditionnel. Mais ce qui l'est moins, c'est que l'on construise encore ce type de chapelle dédiée à la Vierge à l'époque à laquelle nous sommes. Hein, c'est un vieil héritage en fait. Hein. Qui a tendance à disparaître, en fait. Hein. Bon, alors, pas de commentaire à faire. Donc, une chapelle qui est constituée de trois travées droites, donc là, au niveau du pointeur laser, hein, donc on a effectivement ici les travées droites, donc qui précèdent l'abside. L'abside est une abside à 5 pans coupés. Hein. Voilà, et donc achevée entre 1305 et 1311. Je ne parle pas du mobilier. Le mobilier, comme vous le constatez, est, disons, baroque, entre guillemets, le baroque, en tout cas plus tardif, 17e et 18e siècle. Mais revenons à ce qui fait la particularité de cette église. On le disait tout à l'heure, c'est la statuaire. La sculpture y est incroyable. La sculpture, c'était celle de la façade. Ou des façades, des trois façades, donc ouest, sud et nord. Bon. Et ces statues ont été particulièrement abîmées à travers les siècles, si bien qu'elles sont aujourd'hui protégées et donc disposées dans le déambulatoire, justement. Le déambulatoire, donc dans le cœur, pour simplifier, le cœur de l'église, de la cathédrale de Rouen. Alors il y en a beaucoup, énormément, et donc on découvre ici une statuaire de toutes les époques, essentiellement 13e siècle, mais certaines sont un peu plus tardives. Elles sont surtout très abîmées, hein, vous le constatez. Là ici par exemple, le visage de cet évêque a complètement disparu. Ailleurs c'est donc les bras qui manquent ou d'autres... Bon. Et elles sont surtout, ou du moins elles donnent cette impression d'être très très érodées. Elles sont très abîmées, c'est pour ça qu'on les a placées ici. Elles sont très abîmées, mais elles sont surtout très, très effacées, très érodées. Et là, je vais préciser que ce qui les a abîmées, en fait, c'est la pollution. C'est la pollution. C'est la pollution donc, du XXe siècle qui a fini de les abîmer. C'est pour ça qu'il fallait citer les pierres tout à l'heure. Hein. Quand on parle de la pierre de Saint-Maximin, qui vient de l'Oise, ou la pierre de Vernon, donc qui vient de l'Eure, bon, ce sont des pierres, alors surtout la première là, de Saint-Maximin, qui sont des pierres finalement assez fragiles, hein, qui ne résistent pas ou pas bien donc, à la pollution. Donc j'insiste beaucoup, l'état tel qu'on le voit ici, s'explique par la pollution, très très abîmée. Dommage d'ailleurs, hein, parce que c'était vraiment un ensemble extraordinaire de statues pour l'essentiel du XIIIe siècle. Restons encore un peu dans ce déambulatoire, et vous avez remarqué que le plan que vous avez signale la présence de gisants. Alors des gisants qui sont quand même fameux. Il y a par exemple le gisant d'Henri le Jeune, duc de Normandie. Hein, vous l'avez ici, hein, sur la photo, là. Voilà, qui est mort en 1183. Alors là, on voit la différence, hein. Mais ceci explique cela. Ça n'est pas de la pierre de Saint-Maximin ou de Vernon qui a été utilisée, mais du marbre. Hein. Ce sont des gisants en marbre. Alors, tout à fait traditionnel. C'est-à-dire avec un lion qui est symbole de la force, du courage et de la valeur donc, de ce Henri le Jeune, duc de Normandie. Il est mort en 1183, mais c'est plutôt au début du XIIIe siècle hein, que ces gisants sont réalisés. En fait, toute une collection de gisants réalisés. Au début du XIIIe, par exemple, l'un des plus connus, c'est celui-ci, le gisant de Richard Cœur de Lion, mort en 1199. Alors c'est bien ça là, le gothique du XIIIe, hein. Remarquez son goût pour à la fois la simplicité et l'efficacité. Hein. Par exemple, on le constate, il n'y a pas trop de plis, les plis sont là où il faut, il n'y en a pas trop, juste pour donner de la vraisemblance à la figure, hein. Je parle des plis que l'on voit ici par exemple, et c'était vrai pour Henri le Jeune précédemment, donc juste ce qu'il faut, de même pour la coiffure, la chevelure hein, qui dépasse de la couronne ici, ou l'expression du visage hein, de ce gisant de Richard Cœur de Lion, ça c'est vraiment caractéristique du gothique du XIIIe siècle, en tout cas pour la sculpture, simple mais efficace. Et on vise par conséquent un effet qui est à la fois réaliste et naturaliste, mais par la simplicité et l'efficacité. Et il y aura même le gisant de Rollon. Alors attention, Rollon, c'est le Rollon qu'on a évoqué tout à l'heure, donc du Xe siècle. Hein, donc il est évident que ce gisant ne date pas du Xe siècle, il fait partie de l'ensemble réalisé au XIIIe siècle. Le gisant de Rollon était important dans cette collection puisqu'il est considéré comme, vous l'aurez compris, le premier duc de Normandie. Donc il fallait un gisant de Rollon à côté de Richard Cœur de Lion, à côté de Henri Ier notamment. Mais sinon, j'insiste beaucoup, il remonte au XIIIe siècle. Bon, voilà pour l'intérieur et déjà un peu la sculpture. Alors, on passe maintenant à l'extérieur. On commence par la façade. Quelques remarques générales d'abord pour cette façade que l'on retrouve ici. La partie supérieure de la façade est décorée de gables gothiques de style plutôt rayonnant, alternativement plein et ajouré. On les voit ici. Par exemple, un gable pointu qui ici est plein, juste à côté, il est ajouré. Plein. Plein, ajouré, plein. Vous voyez, donc ce sont ces gables qui sont les œuvres de deux architectes qui nous situent déjà, vous voyez, au XIVe siècle, qui s'appellent Jean Perrier et Jean de Bayeux, qui vont se succéder sur ce chantier entre 1386 et 1398. Hein. Donc ils sont à l'origine de cet avant-corps, hein, de cette façade saillante par rapport aux deux tours, la tour Saint-Romain à gauche, la tour de Beurre à droite. C'est eux qui sont responsables de l'aménagement. Du même coup, des parties supérieures. Remarquez le sommet de cette façade, elle est achevée par quatre pinacles évidés. Donc c'est bien un gothique déjà très, très travaillé. On est bien au XIVe siècle, et plutôt la fin du XIVe. Donc quatre pinacles, 1, 2, 3, 4, qui vont coiffer là, remarquablement cette façade saillante par rapport aux au deux tours. Donc attention quand même, ne perdez jamais de vue le bombardement de 44, ce qui fait que deux des quatre pinacles que l'on voit ici sont contemporains, datent du XXe siècle. La rose, par exemple, là on peut s'approcher d'ailleurs de la rose, la voici plus près, la rose est en fait, celle que l'on voit là, est la quatrième rose que l'on a reconstruite finalement pour la façade de la cathédrale. La quatrième, et elle date de l'après-guerre. Celle que l'on voit, hein, donc trois autres l'avaient précédée, mais ont été détruites successivement. Voilà, d'autres remarques générales pour cette façade. Le sommet de la façade est achevé par quatre pinacles, on l'a dit, mais il y a ce gable pointu qui est ouvragé, on pourrait dire même orfévré, véritable guipure de pierre, tout à fait remarquable, qui montre un gothique tardif, mais vraiment tout à fait sensationnel. Alors prenons un peu de recul, voici les deux tours, là on les voit se profiler. Commençons par découvrir la tour nord, qui est en fait la tour Saint-Romain. La tour qui est la plus ancienne construction de cette cathédrale. On se souvient qu'elle a été construite en 1145, que Gautier le Magnifique ne l'a pas détruite, et qu'elle a été épargnée lors de l'incendie de 1200. Donc on l'a toujours conservée, et remarquez en effet le jeu des fenêtres géminées sur plusieurs niveaux, hein, que l'on voit ici, caractéristique de cette époque, hein, c'est-à-dire du milieu du XIIe siècle. Donc 1145, hein, la tour Saint-Romain. À l'origine, elle était couronnée d'une flèche en pierre, un petit peu plus tardive, hein, qui ne datait pas de l'époque romane. Et donc malheureusement, là aussi, ça fait partie des destructions. Et après la démolition de cette flèche en pierre qui existait au-dessus de la tour Saint-Romain, on a construit ce que vous avez ici, là, et on se rapproche d'ailleurs à ce propos. C'est un certain Guillaume Pontife qui va réaliser à la fin du XVe siècle ce couronnement ou ce dernier étage remplaçant ce qui existait à l'origine, une flèche. Là, c'est du gothique flamboyant, là, hein, vraiment flamboyant. Hein. Donc c'est ce niveau, ce dernier étage, est doté d'un toit en charpente qu'on appelle en hache. En hache, donc l'outil, si vous voulez, la hache. Donc voilà, c'est l'appellation traditionnelle pour ce type de toit, en hache, dit-on. Ce même Guillaume Pontife, qui travaille ici, donc à cet étage, à la fin du XVe siècle, on pourrait être plus précis, entre 1468 et 1478, et le même architecte qui commence l'érection de la tour de beurre, la tour qui est au sud, que l'on voit se profiler un petit peu là à droite sur la photo, c'est en 1485 que commencera la construction de la tour de beurre par le même architecte. Avant de la voir, je tiens encore toujours à rappeler l'événement du bombardement de 44 ou de l'incendie de 44. La tour Saint-Romain a brûlé, et a brûlé en particulier le 1er juin 1944 à la suite du bombardement allié du 31 mai. Et puis enfin, remarquez la statuaire, parce que là elle n'apparaît pas, hein, parce qu'on est très très haut, hein, on est très très haut, mais si on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a au niveau des piliers et des pinacles, donc un jeu de sculptures qui remonte bien à l'époque de Guillaume Pontife, que ça a été restauré ou pas après le bombardement que j'évoquais. Donc voici la tour de beurre, donc c'est la tour sud, hein, même architecte, hein, fin 15e. Toujours ce gothique flamboyant. Tour de beurre, c'est toujours intéressant de rappeler pourquoi une telle appellation. Surtout que ça n'est pas unique. Quand vous êtes à Bourges, devant la cathédrale de Bourges, il existe également une tour de beurre. Et pour les mêmes raisons qu'il existe une tour de beurre ici, donc à Rouen, parce que la tour en question a été financée avec les indulgences de carême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fidèles riches de Rouen s'achetaient le droit de consommer du beurre et autres laitages pendant le carême. Acheter hein, les indulgences, hein, ces indulgences qui ont été critiquées avec beaucoup de force par Martin Luther, justement. Et bien là, vous avez une sorte d'application, si vous voulez, donc des fidèles très riches pendant le carême s'achetaient ce droit de consommer du beurre et autres laitages donc pendant le carême. Donc voilà, on l'appelle la tour de beurre. Elle est terminée en 1506, cette tour de beurre. Il y a une troisième tour dans cette cathédrale, ou plutôt qui coiffe cette cathédrale, c'est la tour de la croisée du transept, pareillement, dans le même style, un style gothique plutôt tardif. Attention à la flèche qui la coiffe, que je montre là comme ça, là, bon, c'est pas une belle photo, je m'en excuse. Ça n'a pas trop d'importance ailleurs, en tout cas c'est hors sujet, puisque la flèche, il existait bien une flèche, hein, donc en pierre, du XVIe siècle, cette flèche a disparu en 1822 et aussitôt remplacée en 1825 par une aiguille en fonte. Donc la construction que vous avez ici sous les yeux, hein, donc la flèche si vous voulez, que l'on voit aujourd'hui, est en fonte et non pas en pierre. Alors revenons à notre façade, je vous parlais des portails de la façade occidentale, on va les découvrir succinctement. Donc il y a deux portails qui correspondent au bas-côté, hein, donc un bas-côté nord à gauche, bas-côté sud à droite. Ces deux portails sont très intéressants parce qu'ils correspondent au gothique primitif, au gothique du XIIIe siècle, si vous voulez. Hein. Bon. Donc les tympans, notamment, hein, sont du gothique de la première moitié du XIIIe siècle. Donc c'est très très précieux, parce que là vous avez un témoignage à l'extérieur de la reconstruction donc, de la cathédrale, après la décision de Gautier le Magnifique. Alors le porche principal quant à lui, parce que là je parlais donc des deux tympans de part et d'autre, hein, qui datent du XIIIe, mais le porche lui-même, le porche principal, est en fait le dernier élément gothique adjoint à la cathédrale, dans le but de renforcer la façade, cette façade qui avait été mise à mal par la construction justement de la tour de beurre. La tour de beurre que l'on vient de voir à l'instant avait fragilisé la façade. Donc le porche joue le rôle de contrefort de la façade. Donc on distinguera bien les tympans des deux portails latéraux, XIIIe siècle on l'a dit, du porche très saillant, qui lui est la dernière partie de l'église en fait, hein, construite après la tour de beurre. Donc XVIe siècle, hein, ça veut dire XVIe siècle. Ensuite, bon, on apprécie bien sûr le jeu de la sculpture, tout à fait riche, dans un goût d'ailleurs qui est bien typique de l'Angleterre, hein, du gothique anglais. C'est les cathédrales anglaises qui aiment ce jeu de petits arcs aveugles, ou alors ce sont des niches qui se répètent, dans lesquelles on place des statues, comme on le voit par exemple ici, et ça c'est plus particulier du gothique anglais. Donc il y a une influence là, manifeste. Hein. Alors on peut se rapprocher du tympan principal, c'est pas le plus vieux, hein, le tympan principal, mais il est très intéressant quand même. Donc c'est un tympan qui bien sûr correspond à la construction du porche. Si le porche date du XVIe siècle, et joue le rôle de contrefort, ben, le tympan que vous avez ici date du XVIe aussi. Et il va témoigner d'une chose, de destruction due à l'époque des guerres de religion. En 1562, les calvinistes, qui étaient très nombreux à Rouen, procédaient à un iconoclasme tout à fait ravageur pour la ville. Et on va se rapprocher pour voir de plus près effectivement ce vandalisme. Alors on va se rapprocher, ce que l'on va reconnaître, c'est un arbre de Jessé. Le voici de plus près, l'arbre de Jessé du tympan. Alors comme ça il paraît très très beau, mais attention, ici une tête qui manque. Ici une tête qui manque. Voilà. Le reste, bon, ce sont des restaurations. Hein. Il y a eu beaucoup de restaurations, d'ailleurs, dès le XVIIe siècle. Hein. Mais donc, j'insiste, en 1562, il y a eu le passage des calvinistes et des destructions occasionnées par les calvinistes. C'est dommage parce qu'en fait, vous avez quelque chose de très rare. Non pas que l'arbre de Jessé soit une iconographie rare, mais sculpté sur un tympan, C'est très très rare. Il en existe très très peu. En peinture, on trouve l'arbre de Jessé. Hein, donc dans la miniature ou même dans des fresques monumentales, on peut trouver l'arbre de Jessé. C'est assez banal. Mais en sculpture sur un tympan, alors ça c'est très très rare. Hein. Voilà, vous avez donc toutes les références. Pierre des Aubeaux est le sculpteur de cet arbre de Jessé 1512-1513. Marquez les voussures aussi qui sont très belles, agrémentées de statues de patriarches, de sibylles, de prophètes, tandis que se tiennent dans les niches de part et d'autre des statues, je ne fais pas de commentaires. Certaines sont authentiques, d'autres sont des copies, puisqu'on en a vu qui étaient à l'intérieur. Elles ont été nettoyées hein, pour celles qui sont originales, parce que la pollution quand même est passée par là. Et si vous avez un doute, ben remarquez que quand on s'approche de trop près, tout est érodé, tout a été dissous par la pollution en fait, hein, comme une sorte d'acide hein, qu'on aurait jeté sur la façade. Si on le voit pas très bien ici, là on va encore mieux le voir, voyez, comment tout s'est abîmé, mais très vite finalement. Bon, ça c'est la partie principale, hein, donc de la façade occidentale, le portail central, si vous voulez. Mais je vous parlais de deux tympans du XIIIe siècle. Donc celui qui est au nord, c'est-à-dire le portail Saint-Jean, qui date de 1250-1275. Saint-Jean, c'est Saint-Jean-Baptiste à ce propos, hein. Assez bien conservé, hein. Il y a eu quelques restaurations au XVIIIe siècle, mais bon, c'est un portail vraiment, enfin, un tympan, pardon, vraiment remarquable parce qu'il n'a pas été trop abîmé par les vicissitudes du temps et il y en a eu beaucoup hein, à Rouen. Bon, et puis il y a quelque chose de, là aussi de très rare, c'est comme l'arbre de Jessé qu'on a vu à l'instant, une iconographie très rare. En effet, le tympan est divisé en deux registres et le registre supérieur présente le mystérieux passage, entre guillemets, le mystérieux passage de Saint Jean l'évangéliste. Attention, le portail est bien Saint Jean-Baptiste, mais là, au-dessus, on nous parle du mystérieux passage de Saint Jean l'évangéliste, épisode rapporté par Vincent de Beauvais au XIIIe siècle, hein, c'est un grand personnage du XIIIe siècle, Vincent de Beauvais, et qui nous raconte ceci. Vincent de Beauvais nous raconte que parvenu à une extrême vieillesse, l'apôtre, donc Jean l'évangéliste, appelé par Dieu, descend dans un tombeau qu'il avait fait creuser au pied de l'autel, pria et disparut dans la lumière. Et donc les gens qui sont ici ne peuvent qu'assister à la disparition de Saint Jean l'évangéliste. C'est ce qu'on appelle le mystérieux passage. Hein, c'est raconté par Vincent de Beauvais au XIIIe siècle. C'est très très rare hein, comme iconographie, hein, très très rare. Tandis que le registre inférieur ne pose aucun problème iconographique, c'est beaucoup plus banal. De gauche à droite, on découvre le festin d'Hérode, la danse de Salomé, superbe, d'ailleurs on va s'approcher, tellement c'est remarquable, cette danse de Salomé là, au milieu, et la décollation de Saint Jean-Baptiste en deux temps. C'est-à-dire, voyez à gauche, Saint Jean-Baptiste qui est sorti de sa prison et le bourreau qui s'apprête à lui couper la tête, tandis que le bourreau remet, ou du moins donc on l'imagine, a remis la tête coupée de Saint Jean-Baptiste à Salomé qui a exécuté sa danse et qui présente cette tête de Saint Jean-Baptiste à sa mère, c'est-à-dire Hérodiade. XIIIe siècle, hein, c'est un très très beau tympan. Hein. Et au-dessus, hein, remarquez la technique de décoration qui est pas mal, hein, c'est très original. C'est ce qu'on appelle une décoration en pierre de découpe. En pierre de découpe. Et on va évider la pierre, carrément. Donc c'est-à-dire dans la masse. Hein, dans la masse. Hein. Vous imaginez donc une pierre de taille que l'on va effectivement évider dans la masse pour obtenir ce résultat, pierre de découpe. C'est très original et c'est une caractéristique puisque l'autre tympan, vous voyez, c'est pareil. Vous avez une belle voussure là ici en pierre de découpe. Fameux quand même. Donc, pareillement, tympan du XIIIe siècle, c'est l'autre tympan, d'accord, donc portail sud de la façade occidentale, portail dédié à Saint-Étienne. Si vous avez un doute, vous retrouvez ça sur le plan. Divisé en deux parties, comme le précédent, en haut, un Christ en majesté dans une mandorle qui est censé accueillir des fidèles et des pèlerins, qui n'a pas été touché par les calvinistes. Et en dessous, la lapidation de Saint-Étienne, qui par contre a été très très abîmée, et ce sont toujours les têtes qui sont visées par les calvinistes. Les deux doivent être mis en rapport, en relation, c'est-à-dire d'un côté, donc en bas, la lapidation de Saint-Étienne, et en haut, ce Christ dans sa mandorle. L'ensemble illustre le récit du martyr de Saint-Étienne, je cite, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » C'est ce qu'est censé dire Saint-Étienne au moment de son martyr. « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » D'où le Christ dans sa mandorle au-dessus. C'est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 56. Portail de la Calande. Donc là, on va se transporter, vous le savez, au sud. C'est le portail de la façade sud. Portail de la Calande. Fin 13e, début 14e. On a beaucoup discuté de l'origine du nom. Calande, qui serait due aux réunions ecclésiastiques qui avaient lieu au moment des Calandes. On sait que ces réunions se tenaient dans une maison sur la place devant cette façade, d'où le nom de Calande ou de la Calande. De la Calande, c'est plus correct, je crois. Le nom, en tout cas, est attesté dès le 15e siècle dans les archives. Voilà, là, il y a un très très beau portail. Qui présente trois registres. Le registre supérieur montre une crucifixion, on arrive à la voir à peu près. Le registre médian traite de la passion, de gauche à droite on va découvrir l'arrestation. Le Christ aux outrages qui est ici, on va s'approcher d'ailleurs aussitôt pour bien voir donc le détail. Vous voyez donc le Christ aux outrages qui est à peu près au milieu du registre médian. Et la mise au tombeau, complètement à droite du registre médian, la mise au tombeau. Tandis que le registre inférieur présente à gauche les saintes femmes au tombeau, juste à côté le Noli Me Tangere, donc Marie-Madeleine qui veut toucher donc le Christ ressuscité, le Christ lui dit Noli Me Tangere, et enfin, complètement à droite de ce registre inférieur, les damnés. Je vous rappelle que ce tympan a été sculpté à la fin du XIIIe, début XIVe. Il est très très beau. Et l'autre portail, donc l'autre façade, hein, qui est le portail des libraires, hein, le voici, tout à fait extraordinaire. Hein. Ah, donc là, vous avez comme ça un aperçu d'ensemble de l'extérieur de la cathédrale de Rouen. Donc c'est le croisillon nord du transept. Là aussi, on a discuté de l'appellation. On pense que le portail prend ce nom du fait de l'installation des libraires dans les échoppes de la cour, donc de part et d'autre si vous voulez. Cependant, les historiens rappellent que les marchands de livres se nommaient à l'époque les libratiers. On pense plutôt que le nom provient de la librairie, c'est-à-dire la bibliothèque de la cathédrale. Hein, il y avait effectivement ici une bibliothèque. Donc il y a une confusion de termes qui s'est produite par la suite, ce qui fait qu'on l'a appelé ce portail le portail des libraires, mais on devrait plutôt dire portail des libratiers ou portail de la librairie. Dans ce cas, c'est la librairie de la cathédrale. Exactement, exactement, tout à fait. On est bien en Normandie. Au revers, à ce propos de cette façade, vous avez un très bel escalier qu'on appelle aussi l'escalier des libraires. Au revers, hein, c'est vraiment au revers, hein, très bel escalier. Toujours dans ce gothique tardif. Hein. Mais revenons à notre portail des libraires, hein, juste pour avoir un aperçu plus complet. C'est quand même des façades tout à fait exceptionnelles. Hein. Donc la cathédrale possède comme ça trois façades. Hein, façade occidentale, façade sud et façade nord. Avec une rose, hein. On peut s'approcher, voilà la rose, elle est authentique, hein, celle-ci n'a pas été refaite comme la rose de la façade occidentale. Et le portail, quant à lui, donc est un peu particulier, donc c'est en dessous, donc le tympan plutôt du portail des libraires. Curieux parce que le troisième registre, hein, le registre supérieur du tympan, que je montre ici avec le pointeur, n'a jamais été sculpté. Très très curieux. Donc il n'y a que deux registres. Le registre inférieur montre une résurrection des morts qui sortent de leur tombeau. Donc nous sommes avant la séparation des justes et des damnés, tandis que là, c'est tout finalement, parce qu'on peut supposer que la partie supérieure devait accueillir un Christ en majesté, mais ça n'a jamais été représenté. Donc on s'en tient qu'à ça. C'est-à-dire, on voit bien effectivement la résurrection des morts qui sortent de leur tombeau, et juste au-dessus, là, le registre au-dessus montre la séparation des justes et des damnés. Avec l'enfer à droite, vous voyez le chaudron dans lequel bouent les damnés. Donc un portrait intéressant, mais vous voyez, celui-ci n'a pas été restauré, donc il est très noir, hein, il est très... Oui, il est abîmé par la pollution, lui aussi. Hein. Quant au trumeau, le trumeau est 19e. D'ailleurs, ça se voit, mais la pierre n'est pas du tout la même. C'est un trumeau qui présente une statue de Saint Romain, mais 19e siècle. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu de la cathédrale. Elle est riche, hein, quand même, entre la statuaire et puis les différentes parties. Bon, c'est très très riche. De l'abbaye Saint-Ouen, j'ai pas de développement à faire. Pourquoi, vous allez vite comprendre. On rappellera juste que l'abbaye de Saint-Ouen a été l'un des monastères bénédictins les plus puissants de Normandie, un des plus anciens aussi, puisqu'il est fondé en 553. Que bien sûr, de cette époque, il ne reste rien, que l'église que l'on découvre aujourd'hui est gothique, c'est une reconstruction à partir de 1318, que la guerre de Cent Ans a considérablement ralenti les travaux, si bien que si cette église est reconstruite à partir de 1318, elle n'est pas achevée avant la fin du XVe siècle. Mais à cela s'ajoute quelque chose qui va faire effectivement que je vais pas pousser plus loin mon commentaire sur l'abbaye de Saint-Ouen. La façade que vous voyez ici, la façade telle qu'on la découvre, la façade occidentale de cette abbaye de Saint-Ouen, a été construite dans un style néo-gothique entre 1845 et 1852. À ce propos, l'architecte, qui est Henri Grégoire, prenait comme exemple la façade de la cathédrale de Cologne qui venait juste d'être construite. La façade de la cathédrale de Cologne, qui est monumentale, qui est gigantesque, qui a été reconstruite d'après les plans de l'époque, mais qui date bien du XIXe siècle, et qui avait beaucoup marqué les contemporains. Donc Henri Grégoire s'en inspire pour la façade de l'abbaye de Saint-Ouen. Voilà, j'en dirai pas plus, de cette église-là. Et donc, va s'orienter vers la place du Vieux-Marché, maintenant. Place du Vieux-Marché, dont on disait qu'elle a été rénovée. C'est une très, très belle place, magnifique à découvrir, à Rouen. Et là, donc, se dresse une curieuse église qui, vous allez me dire, mais n'a rien à faire dans ce cours qui est plutôt consacré donc, à la ville médiévale. Donc, c'est l'église Sainte-Jeanne-d'Arc, place du Vieux-Marché. Bon. C'est un architecte qui s'appelle Louis Aretsch, qui construit à la fois ce que vous avez à droite, l'église Sainte-Jeanne-d'Arc, et ce que vous avez à gauche, c'est-à-dire les halles du marché. Quand il construit cette église, elle est aussitôt contestée par les habitants et contestée par d'autres, bon. Mais elle a au moins d'intérêt, cette église, elle permet d'admirer les vitraux du cœur d'une ancienne église, l'église Saint-Vincent, et non pas une prétendue église Sainte-Jeanne-d'Arc, vous le comprendrez facilement, il n'existait pas au Moyen-Âge d'église Sainte-Jeanne-d'Arc, mais une église Saint-Vincent qui, jadis, était située en bas d'une rue Jeanne-d'Arc, et l'église en question, Saint-Vincent, a été détruite en 1944. Décidément. Mais malgré sa destruction, on a pu sauver les vitraux de l'église Saint-Vincent, que l'on a intégrés à cette nouvelle construction inaugurée par Valéry Giscard d'Estaing. L'église Sainte-Jeanne-d'Arc a été inaugurée le 27 mai 1979 par le président de la République. Donc si elle ne vous plaît pas d'allure ou d'aspect, sachez quand même qu'elle a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques. Donc le 30 octobre 2002, elle est inscrite au monument historique. L'intérieur est ce qu'il est, je ne vais pas le commenter. Voilà l'architecture, enfin l'intérieur de l'architecture en question, l'église Sainte-Jeanne-d'Arc. Et par contre, bien sûr, les vitraux que l'on voit se profiler déjà à gauche sont extraordinaires. C'est un ensemble vraiment superbe. Imaginez quand même, on a pu sauver de l'église Saint-Vincent 13 verrières réalisées entre 1520 et 1530. On les a enchâssés, comme vous le voyez, dans le mur nord de l'église, En fait, pour être plus précis, pour bien comprendre comment on a pu les sauver, c'est que juste avant le bombardement, le service des monuments historiques avait eu soin de mettre à l'abri ces verrières de l'église Saint-Vincent. Donc là, voilà, on a eu du nez. Donc effectivement, en 1944, l'église était détruite. Mais enfin, on sauvait donc les verrières, et elles sont importantes parce que l'atelier de peintre verrier rouennais a beaucoup travaillé. J'aurais pu vous présenter, par exemple, les verrières de la cathédrale Notre-Dame. Hein, il y a encore des verrières dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen, des verrières qui, pour certaines, datent du XIIIe siècle, et qui, pour d'autres, remontent à cette époque, et qui sont remarquables. Mais comme je savais que j'allais vous présenter celle-ci, j'ai laissé de côté les verrières de la cathédrale. Hein. Donc, en tout cas, un atelier de peintres verriers rouennais très actif, marqué par l'influence d'un certain Arnoux de Nimègue, un grand maître verrier flamand de la Renaissance qui était de Nimègue, qui est mort en 1540, pas dans sa ville mais à Anvers, mais enfin qu'importe. Donc Arnoux Nimègue, c'est une référence en matière de verrière. Alors voici quelques autres photos, quelques autres clichés d'ensemble. Hein, bon. 13 verrières qui se rapportent diversement à la vie de Saint-Pierre, à la vie de Sainte-Anne, donc à la Vierge, forcément, bon, à Saint-Jean-Baptiste aussi, à la vie de Saint-Jean-Baptiste, ou alors ce sont des thématiques comme les œuvres de miséricorde, bon, ou encore la verrière de l'enfance et de la vie publique du Christ, donc il y aura la verrière de la Passion, la verrière de la Crucifixion, etc. Alors là, on peut s'approcher quand même de quelques-unes hein, pour voir la beauté, la qualité de ces verrières. Donc là, vous avez à gauche la verrière de Sainte-Anne, 1520-1530. Et on connaît tout hein, de ces maîtres verriers. Par exemple, je ne l'ai pas noté, le prenez pas, mais on sait quelle est l'œuvre, la verrière en question de Sainte-Anne. Elle est l'œuvre de Jean le Vieil, et qu'elle a été offerte par la confrérie de Compostelle, financée par la confrérie de Compostelle. Tandis que la verrière que vous avez à droite, qui est la verrière du triomphe de la Vierge, qu'on appelle aussi le vitrail des chars, parce que curieusement, et si on s'approche, vous allez le voir, vous avez donc des chars, voyez, qui sont tirés par des animaux, mais qui glorifient la Vierge. Donc verrière du triomphe de la Vierge, ou vitrail des chars, qu'importe, on la connaît bien, elle a été commandée en 1515, réalisée en 1522, et c'est une œuvre de Jean et Engrand le Prince. On connaît tout de ces verrières. Hein. Donc on a des archives qui se rapportent à cet atelier-là de maître verrier rouennais. Ici, à gauche, c'est la verrière de l'enfance et de la vie publique du Christ, même période 1520-1530, et c'est le don des Leroux de Bourtroude. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir vous présenter l'hôtel, hein, parce que c'est déjà un peu tard, mais donc il y a un hôtel de Bourtroude à Rouen qui est très beau. Ben, c'est la famille des Leroux de Bourtroude qui finance la verrière qui est à gauche. À droite, verrière de la Passion du Christ, hein, arrestation, flagellation, et donc la verrière qui suit, c'est celle de la Crucifixion qui est superbe. Donc c'est étonnant hein, ce site, hein, l'église Sainte-Jeanne d'Arc. En fait, il faut y aller au moins pour les verrières de l'église Saint-Vincent. Et puis alors, quel cadre, hein ? La place du Vieux-Marché, maintenant, c'est vraiment très, très beau. Hein ? Alors, on va se tourner en direction de l'église Saint-Maclou, maintenant. L'église Saint-Maclou. Ça, c'est un petit joyau de l'art gothique flamboyant. Si l'abbaye Saint-Ouen a été, en tout cas pour sa façade, complètement refaite au XIXe siècle, là, vous avez quelque chose qui n'a pas été trop refait par la suite. Gothique flamboyant, oui, effectivement, entre 1437 et 1517, elle a été construite. Certes, je ne vais pas vous cacher qu'elle a subi des dommages lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a deux bombes qui sont tombées en 1944 sur l'église Saint-Maclou. Et elle a souffert, comme la cathédrale, des aléas du climat et de la pollution. Mais elle n'en reste pas moins superbe, avec sa façade ouest, dans laquelle s'ouvre une rose que l'on voit ici. Marquée à l'arrière-plan, la belle tour coiffée de sa flèche, toujours en pierre, comme la place du Vieux-Marché, la place ou le parvis de l'église Saint-Maclou est très belle. Vous voyez, donc les façades ont été rénovées. Donc c'est de très belles maisons à pans de bois que l'on découvre. Enfin, revenons donc à la façade de l'église Saint-Maclou, qui est ici, et on est surpris de constater que devant la façade s'ouvre un porche à 5 baies, disposé en arc de cercle. Donc le porche, en fait, il a un profil, un plan, si vous voulez, un plan en hémicycle, en arc de cercle. Et l'ensemble est surmonté de gables, ces gables très pointus que l'on voyait tout à l'heure sur la façade de la cathédrale, on les retrouve ici. C'est bien le gothique tardif, ça, gothique du 15e et début 16e. Donc Saint-Maclou conserve la tradition normande de la tour-lanterne, on la voit encore un peu ici, à l'arrière-plan. Comme la cathédrale Notre-Dame, on en a vu une, enfin une, trois en fait, à la cathédrale Notre-Dame, une très très belle tour lanterne, qui mesure ici 83 mètres de haut, et voici un autre plan, pour mieux voir les trois baies centrales abritent trois portails, dont deux sont ornés de portes en bois sculptées, œuvre des huchiers de la Renaissance. Ainsi, on aura vu le travail des sculpteurs, le travail des architectes, le travail des maîtres verriers, rouennais, et voici maintenant le travail des huchiers, des ébénistes, un sculpteur sur bois, si vous voulez, de Rouen, qui ont laissé cette porte qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Voilà. Donc, elle est authentique. Elle est authentique. Elle date donc de la fin du 15e, début 16e. Et en se rapprochant, on découvre une iconographie. La voici donc de plus près. À gauche, une présentation au temple. Enfin, entendons-nous bien, le médaillon, c'est une présentation au temple. Et à droite, c'est un baptême du Christ, avec quelques figures qui sont donc les apôtres donc qui accompagnent ces scènes. Très très beau travail. Quant au tympan, parce qu'il ne faut pas donc négliger au-dessus de cette porte en bois le très beau tympan sculpté, le tympan du portail principal, qui s'orne d'un jugement dernier. Bon, iconographie plus banale, autant l'arbre de Jessé du portail central de la façade occidentale de la cathédrale de Rouen était rare, une iconographie très rare, autant ça c'est beaucoup plus banal, le jugement dernier. Mais là encore, si on s'approche, donc on va observer des têtes brisées, presque toutes les têtes, vous voyez, enfin pas toutes, mais enfin beaucoup de têtes quand même, ont été cassées par les calvinistes, donc il y a eu des restaurations par la suite. Je crois que j'ai un détail, mais qui n'apporte pas grand-chose. Voilà, donc toujours la séparation des élus et des damnés, ici, c'est le côté des élus. Alors bon... l'église Saint-Maclou est très belle, elle est tout à fait extraordinaire dans ce cadre-là. Ce cadre, c'est quel cadre? C'est le cadre de maison, comme celle-ci, par exemple, à Pont-de-Bois, dans un très vieux quartier donc de Rouen. Très très belle église, donc, qui a souffert soit, mais enfin, que l'on peut apprécier à sa juste valeur malgré tout. Et il y a, accompagnant cette église Saint-Maclou, il y a l'être Saint-Maclou. Ce qui fait de l'ensemble une sorte de complexe tout à fait étonnant. On va donc s'orienter vers l'être Saint-Maclou, c'est pas compliqué, il faut trouver une porte, donc une entrée, si vous voulez, une entrée qui nous fait passer dans l'être Saint-Maclou, juste à côté de l'église Saint-Maclou, évidemment. Donc l'entrée, la voici, donc je vous la montre là. Donc attention, on peut passer à côté sans le voir, finalement. Et c'est quand même tout à fait surprenant. C'est vraiment tout à fait surprenant, cet être Saint-Maclou. Parce qu'on va déboucher, effectivement, sur un cimetière. Qu'est-ce que l'être Saint-Maclou? C'est un cimetière. Mais un cimetière fait de bâtiments à pans de bois, que je vous montre aussitôt. Donc voici l'être Saint-Maclou. Être, c'est tiré du vieux français... vous trouvez différents termes français, estre par exemple, en tout cas toujours dans le sens de cimetière, et c'est évidemment issu du latin atrium, être de atrium, et l'atrium désigne une cour à ciel ouvert, une cour intérieure. Donc l'être Saint-Maclou se présente comme ça, comme une cour à ciel ouvert. C'est quelque chose qui est attesté dès la peste noire de 1348, Seulement, à la suite d'une nouvelle épidémie de peste au XVIe siècle, il devient nécessaire d'en augmenter la capacité. Et donc au XVIe siècle, après l'épidémie de peste, la paroisse décide d'aménager des galeries surmontées de combles destinées à contenir les ossements. Donc méfiez-vous, ces constructions ne sont pas destinées à être des maisons, des habitations, des appartements, que sais-je, mais uniquement destinées à contenir des ossements. Donc vous avez en fait un vaste ossuaire. La construction de cet ossuaire débute en 1526, ce qui permet de dater la peste. La peste est datée de 1525, ou un petit peu plus tôt je crois, donc début 16e. Donc 1526, on construit cet ossuaire sous la forme d'un atrium, l'être de Saint-Maclou, que l'on peut voir sous cet angle-là, par exemple. Comme ça, ça permet de dire que l'ossuaire se compose de 4 galeries. Donc, bien sûr, le photographe est dos à une des 4 galeries. Donc, encadrant cette place centrale, c'est très grand, c'est très très grand, 32 mètres sur 48 mètres pour le long côté. Les 3 premières galeries, c'est celles que l'on voit ici, sont réalisées en pans de bois au-dessus d'un soubassement en pierre, que l'on devine. Le soubassement en pierre court ici, au rez-de-chaussée de ces constructions. Les fûts des colonnes sont sculptés de décors de la première Renaissance, et la galerie du sud, donc dos au photographe, on ne la voit pas, la galerie du sud est un petit peu plus tardive, elle date du XVIIe siècle. Donc ces 3 galeries sont les plus authentiques, XVIe, celle du sud XVIIe, et elle est dépourvue de soubassement et de sculpture. Donc elle ne nous intéressera pas, on la laissera de côté, on considérera uniquement les 3 galeries qui remontent au XVIe siècle. Attention quand même, je précise qu'au XVIIIe siècle, on prévoit la construction d'un étage, car au XVIe siècle, ces galeries n'avaient qu'un niveau, un rez-de-chaussée si vous voulez, et on prévoit la construction d'un étage, si bien que les galeries sont fermées par des cloisons en pans de bois maçonnés et des fenêtres. Donc attention à ces cloisons en pans de bois maçonnés et aux fenêtres, c'est 18e, c'est parce qu'on a voulu un étage au 18e siècle. Sinon c'était ouvert, comme un portique, si vous voulez, des galeries ouvertes sur l'être, sur l'atrium. Bon, mais enfin, ça n'enlève rien donc à la qualité de l'ensemble, et surtout, ça n'enlève rien à la sculpture, parce que si on a fermé de pans de bois, comme on le voit ici, et de fenêtres les galeries, les montants en bois sont authentiques. Donc remonte au XVIe siècle, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de découvrir des colonnes, des galeries qui sont ornées de sculptures, parmi lesquelles des couples, ce sont des couples que l'on voit ici, notamment sur ces poteaux de bois, sur ces piliers, des couples qui vont illustrer la danse macabre. L'ensemble correspond à une danse macabre. On peut voir donc la galerie sous un autre angle, donc des couples ici, là, qui vont illustrer une danse macabre. Et à partir de là, les poutres sont décorées de motifs macabres, ossements, instruments liturgiques ou encore instruments du fossoyeur, des pioches, des cercueils, jugés par vous-même. Alors, je le redis, les fenêtres, ou ce qu'on voyait à l'instant, les pans de bois à droite comme à gauche, date du 18e. Et par contre, le montant, lui, est authentique, c'est 16e. Comme là, ici, de part et d'autre de la fenêtre, où la petite frise au-dessus date bien du 16e siècle. Vous avez bien compris le principe. Voilà, et donc c'est une iconographie étonnante. C'est un lieu curieux, quand même. C'est assez rare de trouver comme ça, en France, de tels ossuaires. Voici une autre, la photo là, qui montre encore notre point de vue et qui permettra de dire que le Parlement de Normandie ordonnera la suppression des lieux de sépulture urbains en 1779. Donc c'est une ordonnance royale qui supprime ces lieux de sépulture urbains en 1779. En conséquence, le cimetière Saint-Maclou est fermé en 1781. Et on l'a conservé. malgré l'histoire de Rouen que vous connaissez maintenant un peu mieux. Et donc, puisqu'il nous reste une minute, bah, ça sera juste ce qu'il faut pour présenter l'hôtel de Bourtroude. Méfiez-vous de l'orthographe, hein, mais la prononciation, c'est bien Bourtroude. On prononce Bourtroude. Voilà, l'hôtel de Bourtroude. Ah oui, l'hôtel de Bourtroude. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Bon, c'était juste pour terminer sur une meilleure note. Hein. Je n'allais pas vous laisser donc avec un ossuaire. Et puis, ça permettra donc d'avoir une approche relativement complète, hein, certainement pas exhaustive. Mais enfin, bon, on aura vu des édifices très différents, en fait, les uns des autres. Et il fallait dire que l'architecture civile est très bien représentée à Rouen grâce à ces hôtels particuliers, et en particulier cet hôtel Bourtroude, qui date de la fin du XVe siècle, terminé vers 1530, mais qui constitue un des tout premier témoignage du style Renaissance. Hein. Car attention, si on a déjà rencontré des édifices de cette époque, hein, donc, c'est-à-dire fin 15e, début 16e, ils étaient pour la plupart en gothique tardif, gothique flamboyant. Là, c'est par contre, bien sûr, le style de la Renaissance qui s'impose. Hein. L'hôtel est terminé en 1530. Hein. Donc, très bel hôtel, prenons du recul pour constater que la façade principale se trouve dans une cour intérieure. C'est la façade principale dans une cour intérieure. Alors il y a quand même quelques éléments de l'art gothique. Ce sont des pinacles que l'on voit ici, hein, des arcs brisés. Bon, et dans l'essentiel, c'est bien le langage de la Renaissance. Voilà, et on va même trouver, mais j'ai pas réussi à faire la photo, on va même trouver la salamandre, emblème de François Ier. Les fenêtres à meneaux. Alors, fenêtres à meneaux, c'est quand même plutôt médiéval, ça. Hein. Quoique, bon, après tout, c'est à la fois à cheval sur le Moyen-Âge et la Renaissance. Donc, les arcs brisés que l'on voit ici, flanqués de pinacles, abritent des tympans sculptés, qui sont très intéressants. Et on va s'approcher, d'ailleurs. Celui de droite, là, montre les armes des Bourtroude, de la famille Bourtroude. Donc c'est les deux lions léopards normands-angevins. Lion léopard normands-angevins qui soutiennent les armes de la famille Bourtroude. Voilà, et donc j'ai voilà aussi cette photo-là qui montre justement les deux pinacles. Donc il faut toujours se rappeler des remaniements au 19e et 20e siècle. Hein. Il y a toujours des remaniements. Mais enfin bon, on arrive quand même à apprécier le bâtiment tel qu'il était à l'origine, et on va se rapprocher ici des deux licornes, parce que les deux licornes flanquent, comme vous le voyez, je pense, les armes du roi de France. Voilà, je vous laisse là sur cette très belle tourelle, qui fait partie du même hôtel de Bourtroude, petite tourelle en encorbellement, véritable échauguette, qui ornait l'angle plat, donc un angle biseauté, si vous voulez, un angle plat, qui était à gauche du porche. Le problème de cette échauguette, c'est qu'elle menaçait ruine au début du 19e siècle, et elle a été frappée d'alignement. Ça veut dire qu'elle a été radicalement supprimée en ce 19e siècle. Et ce n'est qu'en 2009-2010 qu'on décide de refaire cette échauguette à l'identique de ce qu'elle était avant sa suppression au XIXe siècle. Donc, soit vous avez quelque chose qui correspond à ce qui existait à l'origine, mais qui date du XXIe siècle. C'est refait, ça en 2009-2010. Et c'est remarquablement refait, hein, c'est remarquablement refait, et c'est un témoignage de ce qu'il était, hein, cet hôtel de Bourtroude, avec remarqué ici, là, une sculpture qui est tout à fait dans le goût, d'ailleurs, de l'époque, hein, de la Renaissance. Hein. Voilà, ben c'est sur ce petit ange que je vous laisse, hein, pour ce premier épisode donc des capitales artistiques concernant Rouen. Et si vous avez des questions donc, à poser, n'hésitez pas.